Chapitre 3. Le même soir, Polichinelle était installé dans le propre palais du roi, en qualité de page. Son père et sa mère ne furent pas oubliés, et on leur donna dans les jardins de la cour une jolie maisonnette, agréablement située au milieu d'un bosquet d'orangers. La dame Pulchi n'y avait d'autre occupation que de filer, à ses heures de loisir, des fils d'or et de soie pour la princesse, qui venait souvent, dans ses promenades du matin, faire la causette avec ses bonnes gens. Les pages, camarades de Polichinelle, furent d'abord tentés de le turlupiner à cause de sa difformité et de sa laideur. Mais bientôt tous devinrent ses amis, les uns redoutant son esprit déjà célèbre, les autres aimant le bon cœur qu'il faisait paraître en toute occasion, car lorsque l'esprit est uni à la bonté, cela fait un caractère dont l'amabilité entraîne tout le monde, et la beauté du visage est la dernière qualité dont les honnêtes gens s'avisent de tenir compte à un homme. Polichinelle eut, comme il l'avait demandé, des maîtres en toutes les sciences. Il savait que l'esprit naturel n'est rien quand on ne le fortifie point par l'étude, et il était résolu d'acquérir par son travail un si brillant génie que ses beaux s'en fussent éclipsés et tous les traits de son visage embellis. Déjà on a vu que ses tours d'imagination l'avait élevé jusqu'à la familiarité du roi et aux bontés de la princesse. Celle-ci, à partir de la soirée où elle en avait reçu ce signalé service, ne le rencontrait jamais sur son chemin sans lui donner quelques sucreries, comme des citrons confits, des oranges ou des cédrats, et plus particulièrement des chinois, dont Polichinelle se montrait friand à l'excès. Au milieu de ces douceurs, Polichinelle ne vivait pas toujours également tranquille, car il avait un ennemi puissant dans la personne du seigneur Ernest de Bugolin, qui ne lui pardonnait pas de l'avoir exposé naguère à la risée de la cour. Monsieur de Bugolin, en sa qualité de grand majordome, avait la direction du quartier des pages et ne négligeait aucune occasion de desservir auprès du roi le pauvre page aux deux bosses. Si quelque espièglerie avait été commise dans le palais, si par exemple un seigneur mettant la main à sa poche y trouvait une souris se régalant de noisettes, ou bien si un ambassadeur entrait gravement à l'audience solennelle du roi, traînant attaché à sa robe une petite charrette de cartes. « Bon, » disait aussitôt M. de Bugolin, « c'est Polichinelle, voilà sa main. » Mais le roi, n'y prenant point garde, le grand majordome résolut de pousser à bout sa patience et ne craignit pas, pour y réussir, de se rendre coupable d'une indigne action. Il savait que le roi avait pris en affection singulière un petit oiseau couleur de feu qui lui avait été envoyé par le sultan du Bengale. Ce petit oiseau, muet pendant le jour, avait coutume, à l'heure où tombe la rosée du soir, de chanter des airs célestes qui arrachaient des larmes d'attendrissement à tous ceux qui avaient le bonheur de les entendre. Monsieur de Bugolin, qui comme toutes les sottes et méchantes gens n'aimait pas la musique, tordit le cou au petit chantre du Bengale et voulait la cacher sous le lit de Polichinelle. Le lendemain, comme tout le palais était sens dessus-dessous au bruit de la disparition de l'oiseau favori, M. de Bugolin fit fouiller tout le quartier des pages, et le corps de l'oiseau couleur de feu fut trouvé naturellement où ce méchant homme l'avait mis. Voilà le roi hors de lui. Il ne veut pas même entendre Polichinelle, et il donne à M. de Bugolin l'ordre de faire administrer sur le champ à son page 50 coups de fouet, en la place ordinaire de ces sortes d'exécutions. Polichinelle sentit vivement l'affront qui lui était fait, et ne dévora point cette injustice sans en garder une dent violente contre le seigneur Ernest. Ayant remarqué que ce grand majordome était soigneux de sa personne jusqu'à la fatuité, et que rien ne lui semblait dans le monde si beau que son physique, ce fut par ce côté que Polichinelle se résolut à l'attaquer. Dès le lendemain, on trouvait dans tous les coins du palais une quantité de petites affiches sur lesquelles on lisait ces mots écrits à la main. « Pour paraître prochainement les 73 manières et demie de mettre sa cravate » par M. de Bugolin. La cour ne laissa point passer cette occasion de se divertir aux dépens du grand majordome, qui soupçonna aisément d'où lui pouvait venir cette mortification. Un autre jour, au bal du roi, ce méchant seigneur, qui était fort vain de sa légèreté à la danse, se trouva tout à coup, au moment de passer un entrechat, incapable de lever la jambe. La semelle de ses souliers avait été secrètement enduite d'une sorte de poids qui, en s'échauffant, le retenait collé au parquet. Il fallut 4 forts laquais pour l'en arracher. Ce bel homme, voulant alors essuyer son visage, tout ruisselant de sueur par suite des efforts qu'il avait faits et de l'humiliation qu'il ressentait, se frotta vivement de son mouchoir, sans prendre garde qu'il était plein de noir de fumée. Il se vit incontinent dans la glace, et comme on pense bien, il fut le seul à qui sa mine de ramoneur ne donna pas envie de rire. Quelque temps après cette cruelle aventure, on s'entretenait dans la chambre du roi de la riche tournure de monsieur de Bugolin. « En effet, » dit Polichinelle, qui était présent, « et personne à le voir habillé ne se douterait de son infirmité. »«
De quelle infirmité ?» demanda le roi.
« Comment ? » reprit le malin bossu. « Votre Majesté l'ignore-t-elle ? »
« Quoi donc ? » ?»«
Sire, le premier venu de vos courtisans vous le dira. » Le roi interrogea alors ses courtisans, mais tous déclarèrent qu'ils ne savaient ce que voulait dire Polichinelle. Le roi, dont la curiosité se trouvait piquée au vif, revint à son page et le pressa de s'expliquer.
« Sire, dit Polichinelle,
je croyais la chose publique.
Mais puisque je suis seul à la connaître, il me semble que la discrétion me fait un devoir de me taire.
Dis-le-moi sous le sceau du secret, je te l'ordonne comme ton roi,
reprit sa majesté.
Polichinelle alors, parlant à l'oreille du roi, lui dit
« Sire, le seigneur Ernest de Bugolin a des plumes. »«
Quoi ? » dit le roi. « Des plumes ? Est-il possible ? » ?»«
Sire, il en est couvert. »«
Peste ! » répliqua sa majesté. « Je ne m'étonne plus qu'il soit à la danse léger comme on le voit. Des plumes, cela est merveilleux. »«
Oui, sire, il a des plumes partout le corps, ce qui le gêne passablement pour s'asseoir. »
Là-dessus, le roi se mit à rire en se frottant les mains. Les dames et les seigneurs qui étaient là, ayant vu rire le roi, jugèrent que le secret du pape valait quelque chose, et chacun, tour à tour, le prenait à part pour le solliciter de lui en faire confidence.
« Je veux bien, » disait à chaque fois Polichinelle, « mais à condition que vous le garderez pour vous. »
Puis il répétait ce qu'il avait dit au roi, et grâce à cette façon de confier l'histoire à tout le monde, en recommandant le secret, il n'y eut pas bientôt dans le palais jusqu'au dernier gâteau qui ne fussent instruits que le seigneur Ernest de Bugolin était couvert de plumes sous son linge. C'est pourquoi on appela depuis « secret de Polichinelle » tous les secrets mal gardés. Cependant, ce seigneur arriva pour le jeu du roi. Ce furent aussitôt des chuchotements, des clignements d'yeux, des sourires dont il n'avait garde de soupçonner la cause. Quelques personnes même se haussèrent sur la pointe du pied pour longer entre sa collerette et sa peau et tenter d'apercevoir la naissance de son plumage. Le pire de l'aventure pour monsieur de Bugolin fut qu'ayant perdu au jeu, il s'avisa tout à coup de dire au roi « Sire, je viens de me faire plumer ». À ces mots, toute la cour étouffa de rire et le roi ne put s'empêcher de répondre « Ma foi, mon cher Ernest, vous avez bien fait ». Le seigneur de Bugolin, ne pouvant concevoir à qui diantre ils en avaient tous avec leur rire et leur singulière réponse, se retira fort mortifié pour réfléchir à ce qui lui arrivait. Toutefois, Polichinelle ne le tint pas quitte pour si peu. Il avait observé que chaque soir, à la même heure, le grand majordome se rendait en cachette dans un pavillon de verdure au bout des jardins, et l'ayant vu creuser la terre en un certain endroit, il avait été curieux de connaître dans quel dessin c'était. Il fouilla à la même place et trouva un sac rempli d'écus d'or. Le seigneur Ernest était un avare, et dans son appréhension d'être volé, les méchants sont soupçonneux, il enterrait son argent. Polichinelle avait l'âme trop honnête pour éprouver même la tentation de s'approprier le bien d'autrui. Il eut soin de recouvrir fort proprement la cachette avec du gazon, après quoi il se rendit en cabriolant près du roi qui soupait dans son grand salon de marbre.
« Qu'y a-t-il de nouveau ? » dit le roi en l'apercevant.
« Sire, lui répondit Polichinelle à demi-voix, votre grand majordome a tout à fait les mœurs des oiseaux. Il ne se contente pas du plumage, il va plus loin, il pond. »«
Comment ? s'écria Sa Majesté. Veux-tu dire par là que M. de Bugolin fait des œufs ?
Sire, il pond, cela est certain,
répondit Polichinelle.
Bon, dit le roi, fort surpris.
Sire, répliqua le page endiablé,
que votre majesté veuille bien m'accompagner demain soir, et tous ses doutes cesseront.
Le lendemain au soir, le roi et Polichinelle traversaient en catimini les jardins du palais, le roi fort curieux de voir pondre son grand majordome, Polichinelle tout joyeux du succès de sa ruse.
Arrivés au pavillon de verdure, ils se blottirent tous deux dans le feuillage et aperçurent bientôt après le seigneur Ernest. Il entra dans le pavillon avec précaution, regarda autour de lui d'un air inquiet, puis, tournant le dos à ses deux mystérieux observateurs,
« Voilà notre homme !»«
Ma foi, » dit tout bas le roi Polichinelle,
« tu as raison, je crois qu'il va pondre. »«
Voilà une idée bien particulière, pondre. Il faut qu'un homme soit bien désœuvré pour s'amuser à pondre. Mais pourquoi diantre creuse-t-il ainsi la terre ?»«
Il enfouit ses œufs, » dit Polichinelle.
« Allons, allons !» repartit le roi en frappant sur sa cuisse d'un air sérieux.
« C'est décidé. C'est positif. Il pond. »
Ils en étaient là de leur dialogue quand M. de Bugolin se releva et s'éloigna au petit pas rêvant à ses écus. Le roi profita de son départ pour se faufiler à son tour dans le pavillon de verdure et Polichinelle alluma sa lanterne.
« C'est ici, » dit le roi.
« Bien !» dit Polichinelle, puis se servant de son couteau, il creusa légèrement la terre, mais non pas tout à fait la place où il savait qu'était caché le trésor.
« Ciel !» s'écria tout à coup le roi qui surveillait l'opération avec le plus vif intérêt.
« Voici un œuf, en voici deux, en voici trois, en voici quatre !»
Et toujours content, ils en trouvèrent jusqu'à 12.
« Par ma couronne royale !» s'écria le roi en les retournant du bout des doigts.
« On dirait des œufs de dindon !»
Ce grand monarque ne se trompait guère, car Polichinelle les avait pris le matin même dans la basse-cour.
« Eh bien, ma foi, » ajouta le roi, « je les emporte, et je sais bien ce que j'en ferai. »
Il mit en effet les 12 œufs dans un coin de son manteau et regagna son palais, précédé par Polichinelle qui portait la lanterne. Il y avait à Naples, mes enfants, une académie de 12 savants, chargée d'examiner tous les phénomènes qui se présentaient dans les sciences et dans les arts. Le roi convoqua le même soir cette illustre compagnie, lui exposa le fait singulier dont Polichinelle l'avait rendu témoin, et tirant les 12 de son giron, les fit passer à la ronde. Séance tenante, on apporta un fourneau. Un des œufs fut mis à la coque, les autres en omelette, et trois des académiciens des plus dévoués à la science furent commis pour y goûter. Sur l'avis de ces doctes personnes, l'académie, par l'organe de son président, rendit un arrêt portant que les œufs du seigneur de Bugolin, bien qu'affectant la forme des œufs de dindon, en différaient complètement par le goût, que leur saveur rappelait celle de l'ananas, que ce fait extraordinaire méritait d'être approfondi et que le seigneur de Bugolin serait prié, au nom du roi et dans l'intérêt de la science, de se livrer sur le champ à une ponte spéciale, laquelle, divisée en plusieurs lots, serait envoyée aux académies étrangères pour qu'elles eussent à s'en préoccuper. Malgré l'heure avancée, une députation d'académiciens alla signifier cet arrêt à M. de Bugolin. Ce seigneur était au lit. À peine l'eut-on mis au courant du message dont il était l'objet, qu'il se leva comme un furieux et se mit à gesticuler avec si peu de retenue que la crédulité des académiciens n'y put tenir. Il fallut bien reconnaître qu'il n'avait pas une seule plume sur le corps et que les œufs, comme le reste, étaient de l'invention de Polichinelle. On ne sait qui éprouva le plus de confusion, des académiciens ou du seigneur Ernest. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils jurèrent tous de tirer une vengeance éclatante du rôle ridicule que leur avait fait jouer Maître Polichinelle.